Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 21 mars 2023, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. En RDC, des attaques dans le nord-est du pays font plus de 30 morts. Au Sénégal, pas d'obstacle constitutionnel à un troisième mandat, estime le président Macky Sall. Par ailleurs, un mort en Casamance, dans le sud du pays, alors que l'opposant Ousmane Sonko dénonce ce qu'il a qualifié de tentative d'assassinat sur sa personne. Au Nigeria, le parti au pouvoir conserve Lagos, la capitale économique, après des élections sous tension. En France, la réforme décriée des retraites, voulue par le président Emmanuel Macron, a été définitivement adoptée lundi. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue Xi Jinping discutent du plan de paix chinois pour l'Ukraine. Washington, pas dupe. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En RDC, le bilan d'attaques de villages par des miliciens samedi en Ituri, dans le nord-est, est passé de 15 à plus de 30 morts, dont de nombreuses femmes et des enfants, Eddie Isango.
Des sources humanitaires affirment avoir ramassé 39 corps jusqu'hier matin, mais estiment que le bilan pourrait s'alourdir car les recherches se poursuivent. La majorité des victimes sont des femmes et au moins 3 enfants figurent parmi les morts. La milice communautaire Codeco, coopérative pour le développement du Congo, qui soutient protéger la tribu Lendu face à la tribu Hema, est accusée d'avoir mené ses attaques tôt samedi matin contre 5 villages du territoire des Mahagi dans l'Ituri, tuant des habitants, volant du bétail, pillant et brûlant des maisons. Arnold Lokwa, le responsable de la chefferie des Pandourou, dans laquelle se trouvent les 5 villages visés, dénonce un massacre ciblé. Il parle plutôt des 31 corps retrouvés. 2 des villages sont encore inaccessibles pour des raisons de sécurité. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont depuis mai 2021 sous état de siège. Les groupes État islamique a revendiqué une autre attaque à perpétrer les mêmes samedis par les rebelles ADF, Force démocratique alliée, groupe qui lui est affilié dans le village Jangouli, dans les territoires des Loubéros, dans le Nord Kivu, province touchée elle aussi par divers groupes armés et rebelles, dont le M23.
Le bilan toujours provisoire du naufrage d'un petit ferry au large du Gabon le 9 mars est passé à 26 morts et 11 disparus après que 2 corps ont été repêchés lundi, a annoncé le procureur de la République de Libreville. 11 jours après le drame sur les 161 occupants de l'Esther Miracle, officiellement enregistré à bord lorsqu'il a appareillé pour rallier le port pétrolier de Port-Gentil dans la nuit du 8 au 9 mars, 124 ont été secourus vivants. Au Sénégal, le président Macky Sall a maintenu ouverte la question de sa candidature à un troisième mandat en 2024. Il a fait valoir que seuls des facteurs politiques et non pas constitutionnels l'empêcheraient de se présenter. Précision de Mohamedou Houmfa.
Dans un entretien accordé au magazine français L'Express et mis en ligne lundi, Macky Sall a abordé la question du troisième mandat qui agite le monde politique sénégalais depuis plusieurs mois. La Constitution, après la révision de 2016, prévoit que la durée du mandat présidentiel est de 5 ans et non plus 7 et que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cependant, Macky Sall a fait valoir que quand le Conseil constitutionnel avait été consulté avant la révision, ce dernier avait estimé que son premier mandat, débuté en 2012, était hors de portée de la réforme. Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps, a-t-il déclaré. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non? C'est un débat politique, je l'admets. Je n'ai pas encore apporté ma réponse. J'ai un agenda, un travail à faire. Le moment venu, je ferai savoir ma position, d'abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise, a-t-il ajouté. L'opposition affirme que la Constitution interdit à Macky Sall de briguer à nouveau la tête de l'État en 2024. Elle a d'ailleurs fait de la résistance à un troisième mandat son principal mot d'ordre dans un climat de tension grandissante.
Sénégal, toujours, une personne est morte lundi dans la ville de Mignona, en Casamance, dans le sud du pays, lors de heurts entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposant Ousmane Sonko, qui a de nouveau dénoncé une tentative d'assassinat. C'est ce qu'a appris l'AFP de sources locales, administratives et auprès de son parti, Michel Joseph.
Monsieur Sonko se trouve depuis le 16 mars dans une clinique privée de Dakar, où il reçoit des soins. Après avoir affirmé s'être ressenti mal à cause du gaz lacrymogène envoyé par les forces de l'ordre lors de son transfert forcé vers le tribunal de Dakar, où s'est tenu son procès en diffamation contre un ministre, ont affirmé deux responsables de son parti, El Hadji Malik Ndiaye et Ousseynou Li. Nous avons expédié en France le produit qui a été vaporisé sur moi pour trouver ce que c'est, a déclaré M. Sonko sur son lit d'hôpital. C'est une tentative d'assassinat, a-t-il affirmé. Les autorités n'ont pas réagi à ces accusations. M. Sonko a indiqué qu'il quitterait la clinique ce mardi pour poursuivre sa convalescence chez lui. Les forces de l'ordre ont depuis le 16 mars arrêté plus de 400 personnes dans tout le pays lors des manifestations contre le pouvoir, a assuré lundi à l'AFP M. Ndiaye, responsable de la communication du parti de M. Sonko. Contacté par l'AFP, la police et la gendarmerie n'ont pas réagi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vladimir Poutine a salué lundi ce que le président russe a appelé la position équilibrée de Xi Jinping sur l'Ukraine et a dit considérer avec respect le plan de paix de Pékin au début d'une visite du président chinois à Moscou, scellant leur proximité face à l'Occident. Alors que la visite d'État de trois jours de M. Xi en Russie a des allures d'appui à M. Poutine, les États-Unis et l'Union européenne ont de leur côté manifesté leur soutien à Kiev en annonçant une nouvelle aide militaire. Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé le monde à ne pas être dupe des propositions de la Chine pour régler le conflit en Ukraine. Le chef de l'exécutif américain a pour la première fois fait usage de son veto présidentiel. Joe Biden a repoussé hier une loi portée par l'opposition républicaine limitant les investissements responsables dans les fonds de pension, Jacques Aristide.
Pour le locataire de la Maison-Blanche, le texte qui rejette la prise en compte des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance dans les décisions financières mettait en danger l'épargne pour les retraites en rendant illégale la prise en compte des facteurs de risque. Les Républicains ont adopté le projet de loi grâce à leur très mince majorité à la Chambre des représentants. Le Sénat, pourtant contrôlé par les démocrates, l'a également approuvé en raison de l'absence de trois élus lors du vote et du ralliement de deux démocrates qui appartiennent donc au même parti du président Joe Biden. Avec cette loi, ciblant une mesure mise en place par le ministère américain du Travail en janvier dernier qui facilite ce type d'investissement dans les fonds de pension, les Républicains critiquaient une posture idéologique. « Celui qui gère votre pension devrait être en mesure de protéger votre épargne, gagnée à la sueur de votre front, que cela plaise à Marjorie Taylor Greene ou non », a déclaré l'occupant du bureau ovale, en allusion à une élue de l'aile la plus dure de la droite américaine.
En France, la réforme des retraites très controversée, mais voulue par le président Emmanuel Macron, a été définitivement adoptée hier lundi. L'Assemblée nationale a rejeté deux motions de censure contre le gouvernement, confronté à une crise sociale et politique majeure. Éric Manirakidza.
Ces motions qui visaient à renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne ont été débattues dans une ambiance électrique marquée par des députés qui ont quitté l'hémicycle à plusieurs reprises. La motion présentée par l'extrême droite n'a recueilli que 94 voix sur les 297 nécessaires. Une première motion transpartisane avait auparavant été rejetée de justesse à 9 voix près, illustrant la fragilité de la position de l'exécutif. Ce vote entraîne l'adoption définitive par le Parlement du projet contesté prévoyant un report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Dans la foulée, la gauche a soumis au Conseil constitutionnel une demande de référendum d'initiative partagée, une procédure devant recueillir 4,87 millions de signatures pour permettre l'organisation d'un référendum. Pendant ce temps, les manifestations de colère se poursuivent, routes bloquées, transports perturbés, halls d'aéroports et campus occupés, actions de mobilisation dans les lycées. La première ministre Elisabeth Borne, qui s'est entretenue lundi soir avec le président Macron, s'est pour sa part dite déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires. Une nouvelle journée de grève et de manifestation est prévue jeudi à l'appel des syndicats qui continuent à réclamer le retrait du texte.
La Minute Éco, Eric Manirakidze.
L'Union européenne s'inquiète de la détérioration de la situation politique et économique en Tunisie et redoute un effondrement du pays. Si la Tunisie s'effondre, cela risque de provoquer des flux migratoires vers l'Union européenne et entraîner une instabilité dans la région MENA, a averti le chef de la diplomatie européenne. L'Union européenne ne peut pas aider un pays incapable de signer un accord avec le FMI, Fonds monétaire international, a-t-il soutenu. Amazon va supprimer 9 000 postes supplémentaires qui s'ajouteront aux 18 000 suppressions de postes déjà annoncées en janvier, a déclaré lundi son directeur général. Les licenciements annoncés depuis début janvier représentent environ 1,7% des effectifs d'Amazon, qui comptait 1,54 million d'employés dans le monde fin 2022. Il s'agit d'un nouvel épisode de la cure d'amaigrissement en cours dans le secteur technologique. L'OCDE défend le projet controversé de réforme des retraites en France et appelle le gouvernement à le mettre en œuvre. Les systèmes de retraite actuels ont été mis en place à une époque où l'espérance de vie était moindre, a souligné le directeur général de l'OCDE lors d'une conférence de presse sur les perspectives économiques mondiales, ajoutant qu'ils étaient basés sur des hypothèses de coûts qui ne sont plus valables.
Merci Eric. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Basketball Africa League, pour commencer, les matchs de la conférence Sahara prennent fin ce mardi.
Oui, le suspense reste entier à la Dakar Arena pour certaines équipes. C'est le cas du club hôte, l'AS Douane du Sénégal, qui doit gagner ce soir face à l'US Monasti pour espérer voir les playoffs. À suivre aussi le choc ouest-africain entre Abidjan Basketball Club et le stade malien de Bamako, qui doit aussi gagner pour maintenir ses chances. Les Ivoiriens ont assuré hier lundi leur place en playoffs en venant à bout des Nigériens de Kwara Falcons sur le fil 79-76. Idem pour les Tunisiens de l'US Monasti qui ont battu Reg, déjà qualifié pour les playoffs, 84-79. Les Nigériens de Kwara finissent ainsi cette phase de poule sans la moindre victoire. 5 matchs, 5 défaites.
Football, Timothy Weah, forfait avec les États-Unis.
Le joueur de Lille, victime samedi d'une commotion cérébrale contre Toulouse et contraint à 7 jours d'arrêt, va manquer le rassemblement avec la sélection américaine. L'annonce a été faite par le LOSC. Les États-Unis affrontent Grenade le 25 mars et le Salvador 3 jours plus tard dans le cadre de la Ligue des Nations de la CONCACAF, attaquant le fils de l'unique Africain Ballon d'Or, l'actuel président du Liberia, George Weah. Joue en ce moment arrière latéral à Lille en raison des blessures d'Ismaili et de Bafoudé Diakité. Si l'avis médical est favorable, Timothy Weah, 23 ans, devrait être disponible pour le prochain match du LOSC le 2 avril contre l'Orient pour la 29e journée.
La FIFA fait appel devant la justice suisse dans une affaire de viol.
L'instance mondiale du ballon rond a indiqué faire appel de l'annulation par le tribunal arbitral du sport de la suspension à vie de l'ancien président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jean Barthe, dans une affaire de viol de joueuse en novembre 2020. La chambre de jugement de la FIFA avait reconnu le dirigeant, alors âgé de 73 ans et à la tête de la fédération depuis 2 décennies, coupable d'avoir abusé de sa position pour harceler sexuellement et agresser plusieurs joueuses, y compris mineures. La justice interne de la FIFA l'avait donc suspendu à vie de toute activité liée au football au niveau national et international. Le TAS considère que les éléments de preuve portés à la charge de M. Jean Barthe sont incohérents, imprécis et contradictoires. L'affaire est partie d'une enquête du quotidien britannique The Guardian, publiée au printemps 2020. Selon des jeunes filles citées par The Guardian, Jean-Yves Barthe aurait violé de nombreuses joueuses mineures.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Deux otages occidentaux détenus par des groupes terroristes au Sahel ont été libérés. Il s'agit d'un humanitaire américain et d'un journaliste français. Arrivés à Niamey au Niger ce lundi, ils ont exprimé leur soulagement lors de la cérémonie d'accueil à l'aéroport de Niamey. Notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Les premiers mots de Jeffrey Woodkey ont été de remercier Dieu de lui avoir permis de revenir dans son deuxième pays, le Niger.
Après Dieu, je remercie le gouvernement nigérien, le gouvernement américain et la France. Je suis très content d'être encore à Niamey, au Niger, mon deuxième pays. Bonjour à ma famille.
L'humanitaire américain aura passé plus de 6 ans de captivité. L'effort des autorités nigériennes qui ont obtenu cette libération a été salué par la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey, Suzanne Garnin.
Nous exprimons notre profonde gratitude et notre appréciation à nos partenaires nigériens et aussi des autres pays, les Français qui ont aidé à obtenir la libération de l'otage.
Gratitude également des autorités françaises envers le Niger, Sylvain Ité, ambassadeur de la France au Niger.
Au nom du gouvernement français, remercier véritablement et tout particulièrement son Excellence le Président de la République, le Président Bazoum, le gouvernement, l'ensemble des autorités nigériennes qui ont très largement et très activement contribué à ce dénouement heureux qui va permettre à notre compatriote Olivier Dubois de pouvoir retrouver rapidement sa famille et ses amis.
Le deuxième otage libéré et accueilli ce lundi à l'aéroport de Niamey en compagnie de Jeffrey Woodkey, c'est Olivier Dubois, journaliste français.
Alors c'est un peu impressionnant tous ces micros, c'est moi qui les rends d'habitude. Non, juste pour dire qu'évidemment c'est énorme pour moi d'être là, d'être libre, surtout que je ne m'y attendais pas du tout.
Il a été enlevé il y a près de 2 ans au Mali.
Ah, je me sens fatigué, mais je vais bien. Mais je vais bien. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire dans ce type de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi, à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est court, il faut que je reprenne mes esprits, désolé. Et j'espère que... Voilà, enfin, j'attends ça, évidemment. Ça fait presque 2 ans que j'attends.
Pas de précision d'information, cependant, sur les conditions de cette double libération d'otages obtenue par les autorités du Niger. Le ministre de l'Intérieur, parti les accueillir, a tout de même indiqué qu'ils étaient détenus par le GNIM, un groupe terroriste actif en Afrique de l'Ouest et au Sahel, affilié à ACMI. Amadou Adamou Soulé.
Les otages ont été récupérés, sains et saufs, par les autorités nigériennes avant d'être remis aux autorités françaises et américaines. Éprouvé par plusieurs années de captivité, Olivier Dubois et Jeffrey Woodkey sont très heureux de pouvoir renouer avec leur famille qu'ils rejoindront dès que possible.
Depuis quelques années, le Niger est passé en négociation pour obtenir la libération d'otages occidentaux dans le Sahel. La dernière en date remonte au mois de septembre 2022 avec la libération d'un citoyen américain. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
À la découverte des comptes du Gabon et d'ailleurs, tel est le thème autour duquel s'est organisée au Gabon la journée mondiale du compte célébrée lundi. L'initiative portée par le club Littérature Verte de l'université Omar Bongo rassemblait compteurs et publics divers ayant le goût de la lecture. L'événement baptisé « L'arbre à livres » prévoyez, outre les jeux ludiques, les expositions et les déclamations de contes par les étudiants. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Devant un auditoire épris des contes traditionnels, Clarisse, étudiante en littératures africaines, raconte l'aventure d'une jeune fille en mission au pays des morts. Un voyage dans le seul but d'obtenir de sa défunte mère une calebasse de restitution après avoir brisé malencontreusement celle de sa belle-mère.
Durant cette aventure, elle fera des rencontres extraordinaires, notamment avec des êtres assez étranges, bizarres même, et le tout sera couronné par un succès et elle sera richement bénie. La morale de l'histoire est d'être obéissant, serviable et accomplir des activités avec amour.
Des valeurs indissociables de la culture gabonaise dont l'auteur semble vouloir imprégner le lecteur. Mais qu'il s'agisse du récit sur la calebasse ou bien d'autres légendes d'ici et d'ailleurs, un constat fait presque l'unanimité. Le conte social perd du terrain. Enseignant de lettres à l'université Omar Bongo de Libreville, Da Charlie Mapangu a sa toute petite idée sur la question.
Il n'y a pas cette politique du livre. Et la politique du livre qui passe par exemple par ce genre qu'on appelle le conte. Ce conte qui enseigne des valeurs. Aujourd'hui, le petit français, lorsque vous lui parlez de La Fontaine, il se retrouve parce que La Fontaine, avec toutes ses fables, incarne en fait cette société française, avec toutes ses valeurs.
L'organisatrice de l'Arbre à Livres est malgré tout convaincue que le conte gabonais est dépositaire d'une identité culturelle de ses peuples, d'où son appel à le découvrir. Professeur Léa Zam Avezo, promotrice du Club Littérature Verte.
On peut connaître les peuples du Gabon à travers le conte. Mais je précise en réalité, il y a effectivement, le conte est dépositaire d'une mémoire. Donc les anciennes pratiques, celles d'autrefois en réalité, sont conservées dans nos contes.
L'objectif de cette journée consiste par ailleurs à mettre l'accent sur le néocontage.
Parce que ces néocompteurs s'inspirent des contes traditionnels et ils en créent de nouveaux parce qu'effectivement, ils parlent des questions qui nous préoccupent aujourd'hui dans notre environnement.
Sur l'une des allées du campus, le concept l'arbre à livres se matérialise par deux armoires à livres décorées, un dispositif autour duquel sont également installés divers meubles et des jeux de société tels que le Scrabble, le Ludo ou le Songo. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
L'Irak a marqué hier, dans la plus grande discrétion, les 20 ans de l'invasion américaine et la chute de Saddam Hussein, une guerre qui a déclenché une succession de conflits sanglants. Aujourd'hui, malgré un semblant de normalité, les Irakiens craignent pour leur avenir, Jacques Aristide.
Tout commence le 20 mars 2003. Dans le cadre de l'opération Liberté de l'Irak, quelques 150 000 Américains et 40 000 Britanniques sont déployés pour une intervention éclair aux petites heures du matin.
Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures.
Les crimes que Bush Jr. a commis avec ses compagnons sont ceux qu'il avait promis à l'Irak.
Trois semaines suffisent pour sceller le sort du régime de Saddam Hussein et prendre le contrôle de Bagdad le 9 avril. L'objectif affiché de l'administration de George W. Bush était de mettre la main sur les prétendues armes de destruction massive du dictateur. Mais aucune de ces armes n'a jamais été retrouvée. L'Irak de 2023 est loin de la démocratie libérale que George W. Bush envisageait, disent les habitants de la capitale irakienne.
Rien n'a été réalisé, la situation s'est aggravée. La démocratie en Irak est fictive et n'est pas réelle.
Je suis revenue à Bagdad après 25 ans d'absence. Mon cœur battait la chamade et j'avais l'impression d'être dans un rêve. Je me suis demandé comment j'allais agir et ce que j'allais faire. Comment vais-je affronter les choses? Mes sentiments étaient partagés et je n'arrivais pas à les exprimer tous.
Ni le gouvernement fédéral de Bagdad, ni le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak n'ont prévu de cérémonie ce lundi. Et le chef du gouvernement, Mohamed Shia al-Soudani, soutenu par une coalition pro-Iran, n'évoque ces jours-ci en public non pas l'invasion américaine, mais la chute du régime dictatorial de Saddam Hussein qui en a résulté. Peu avant le 20e anniversaire de l'invasion américaine, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la défense, a effectué une visite surprise à Bagdad.
Les forces américaines sont disposées à rester en Irak à l'invitation du gouvernement irakien. Ces forces exercent actuellement un rôle de conseil, d'assistance et de renforcement hors combat afin de soutenir la lutte irakienne contre le terrorisme.
De 2003 à 2011, année du retrait de l'armée américaine, plus de 100 000 Irakiens ont été tués d'après l'organisation Iraq Body Count. Les États-Unis ont déploré près de 4 500 morts. En ce jour d'anniversaire, les Irakiens songeaient davantage à autre chose qu'aux 20 ans de l'invasion de leur pays. Un pays immensément riche en pétrole, mais où un tiers de la population vit dans la pauvreté et où les services publics sont aux abonnés absents.
La 19e édition du Festival de nouveaux films africains s'est ouverte le week-end dernier dans la banlieue de Washington DC à Silver Spring dans le Maryland. Au programme, 30 films sélectionnés dans 22 pays africains qui seront projetés jusqu'au 30 mars pour mettre en valeur le dynamisme du cinéma du continent et de la diaspora. Reportage de Nani Talani.
Coup d'envoi du festival a été donné vendredi à 19h au théâtre et centre culturel EFI Silver de Silver Spring. En ouverture, le film Bobby Wine, The People's President, qui retrace le combat que mène le musicien ougandais Robert Kyagulanyi, alias Bobby Wine, devenu politicien et leader de l'opposition au régime de Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis 35 ans. Le film a reçu un excellent accueil d'un public très diversifié, venu de plusieurs villes du Maryland et des États environnants, pour apprécier la créativité cinématographique du continent africain. Priscillana Ankra, une activiste d'origine ghanéenne vivant à Oakland en Californie, affirme avoir été très touchée par le film.
The movie was beautiful. It was beautifully portrayed.
Le film a été magnifiquement dépeint. Cela m'a brisé le cœur et ça m'a donné de l'espoir que sur le continent, il y a des gens qui se battent pour la liberté et la libération. Et regardant le visage de l'injustice et du mal en choisissant le chemin de la libération et de la justice. Donc ça a vraiment nourri mon esprit.
Toucher le public est l'objectif principal des réalisateurs qui font passer leur message à travers les films, reconnaît Elie Foumbi, une réalisatrice camerounaise qui a grandi et vit dans le Maryland. Elle a présenté le film « Mon père, le diable ».
Chaque fois qu'on est sélectionné, ça veut dire qu'il y a un public qui vient derrière et que le film va être vu. Et finalement, c'est pour ça qu'on raconte ces histoires, c'est pour le public. Donc pour moi, enfin, je suis contente, je suis ravie. Pour eux, c'est un honneur.
Pour certains, ce festival leur offre une occasion unique de se connecter ou renouer avec leurs origines. Pour d'autres, c'est l'occasion de mieux connaître l'Afrique. C'est le cas de Néné Abinobi, recruteuse pour l'Association des pharmacistes américains. Elle est née d'un père nigérian et d'une mère jamaïcaine.
Je pense que c'est une opportunité d'en apprendre plus sur mon passé, ma culture et tout le continent auquel moi qui ai vécu aux États-Unis, je n'ai pas été beaucoup exposée.
Les films projetés viennent principalement des festivals comme le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui s'est tenu au Burkina Faso du 25 février au 4 mars 2023.
On regarde des films qui sont présentés là-bas, d'autres grands festivals au Caire, en Afrique du Sud, à Zanzibar, et il y a des festivals internationaux à Berlin, à Cannes, et parfois, on est aussi en contact en direct avec les cinéastes.
La projection de certains films a été suivie de séances de questions-réponses entre le public et les réalisateurs pour une bonne analyse et une excellente compréhension. C'est le cas du documentaire éthiopien « Mon grand-père était un empereur », « Loin du Nil » de l'égyptien shérif El Kacha, « Bravo Burkina » du nigérian Wale Oedide ou encore « Mon père le diable » de la camerounaise Elie Foumbi.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.